Cet enregistrement est hébergé sur Notes du Mont Royal dans le cadre d'un exposé gratuit sur la littérature.
L'Europe les connaît depuis 1591 via un manuscrit latin issu du voyage d'un jésuite, Ignacio Morera. Parce qu'André Leroy-Gourhan les visita dans les années 30, les préhistoriens évoquent parfois leur culture. Toutefois, bien des choses curieuses courent encore à leurs propos. Population relictuelle, aborigène du Japon septentrional, blanc ou asiatique, descendant direct de la préhistoire la plus lointaine, le Salon Noir se penche aujourd'hui sur la société Aïnou, ses origines, son devenir. Parce qu'il est capital de donner la parole à de jeunes chercheurs, le Salon Noir avait récemment invité un tout jeune docteur travaillant sur la préhistoire de la hyène. Aujourd'hui, il sera plus probablement question d'ours ou de plume d'aigle avec Noémie Godefroy. Bonjour.
Bonjour.
Membre du centre japonais de l'INALCO, Langzo. Noémie Godefroy, vous venez de soutenir devant un parterre de professeurs japonisants votre thèse intitulée « Autour de l'île des eaux, évolution des rapports de domination septentrionale et des relations avec les étrangers au Japon, des origines au XIXe siècle ». Les titres de thèse sont toujours très évocateurs de cet exercice de style. Quoi qu'il en soit, ma première question sera simple. Comment s'est passée cette soutenance?
Non, alors c'est souvent la question à ne pas poser, mais je pense que ça s'est bien passé parce que sinon je pense que je ne serais pas là aujourd'hui. On a l'impression que tout se joue le jour J, donc le jour de la soutenance, mais on se rend vite compte que c'est plutôt les années de dur labeur qui comptent dans ce cas-là. Et je pense que dans mon cas, ça a été peut-être un petit peu trop d'années de dur labeur.
En tout cas, cela prouve que en France, on a aussi des rituels, qu'on a des rituels en Occident et il n'y en a pas qu'en Asie, c'est bien ça ?
Ah, tout à fait. L'exercice de la thèse, c'est un rituel, il faut passer par là, mais c'est pas forcément facile.
Docteur Godefroy, plantons le cadre. Quelle aire géographique couvre aujourd'hui la culture Aïnou ?
Alors la sphère culturelle Aïnou couvre un vaste territoire alors qui va du nord de Hokkaido, le long de l'archipel des Kouriles et jusqu'à l'extrême sud du Kamchatka et sur son versant occidental couvre l'île de Sakhaline et s'étendait jusqu'à l'embouchure du fleuve Amour, donc entre le Japon et la Russie.
Donc Hokkaido, c'est tout à fait le nord, le septentrion devrais-je dire, de ce Japon.
C'est l'île tout au nord du Japon. Je dis à mes étudiants qu'elle ressemble à un cerf-volant, voilà pour ceux qui connaissent.
Et nous voici entre Japon et Russie, des zones de revendication qui font régulièrement l'actualité. On est dans une sorte de frontière qui n'en est pas une, du moins culturellement.
Alors tout à fait, on entend parler de cette zone relativement fréquemment. Il y a de temps en temps des échauffourées entre bateaux de pêcheurs japonais et marine russe. Il faut dire que c'est une région qui est très importante du fait de la prospection gazière et également vis-à-vis de la ZEE, donc la zone économique maritime. Et c'est des tensions qui existent depuis à peu près la fin du XVIIIe siècle. Et les Aïnou, au gré des différents traités qui ont pu être signés entre le Japon et la Russie à partir de 1855, ont du coup été un petit peu les victimes de ces allers-retours entre Japon et Russie, en particulier les Kouriles et Sakhaline.
Voilà, il y a des revendications entre Russes et Japonais sur ces îles encore, je crois.
Tout à fait, il y a des groupes au Japon qui revendiquent une appartenance japonaise dans les Kouriles méridionales, donc que désignent comme étant les territoires du Nord. Et ce qu'ils désignent comme étant les territoires du Nord, ce sont les îles d'Iturup, de Shikotan, de Kunashir et des Habomai. Donc il y a encore des groupes qui revendiquent une appartenance japonaise sur ces territoires.
Et Hokkaido est devenu japonais officiellement à quel moment ?
Alors officiellement en 1869, c'est justement le moment où Ezo, l'île des eaux du titre de ma thèse, a cessé de s'appeler Ezo pour s'appeler Hokkaido, le circuit des mers du Nord.
Donc c'est très récent.
C'est très récent et c'est pas quelque chose qui est très connu des gens qui s'intéressent au Japon. C'est très récent, oui.
Le fait d'être justement à cheval sur une telle frontière, n'est-ce pas d'ailleurs pour partie, je dis bien pour partie, un des problèmes des Aïnou ?
Alors ça a certainement joué dans la rapidité de leur assimilation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'île de Hokkaido a été intégrée au territoire japonais, c'était un endroit très stratégique, à la fois du fait de la présence russe et du fait des petites tensions qui pouvaient persister entre troupes pro-shogunales et troupes pro-impériales. Et donc, il a fallu tout de suite, très rapidement, assimiler les Aïnous pour en faire des sujets japonais et pour permettre qu'ils participent à l'effort de défrichage de ce nouveau territoire.
Mais des Japonais de classe inférieure.
Des Japonais qui, en 1871, ont été intégrés au peuple ordinaire, officiellement, mais qui, à partir de 1887, ont été désignés comme des anciens indigènes. Les anciens indigènes de Hokkaido, donc des gens qui avaient un passé et qui avaient pas vraiment d'avenir à ce moment-là, oui.
Dans l'île de Hokkaido, combien sont-ils aujourd'hui ou du moins combien revendiquent cette culture, leur culture?
Alors aujourd'hui, d'après un sondage de 2006 qui a été effectué mais uniquement à Hokkaido, il y aurait environ 23 800 personnes qui se disent Aïnous. Et un autre sondage effectué en 2010 dans la région de Tokyo faisait état de à peu près 400 personnes qui se disaient Aïnous. Alors le problème, c'est que à ce jour, il n'y a toujours pas eu de sondage d'ampleur nationale et que les chiffres, en particulier pour les Aïnous vivant dans la région de Tokyo, sont assez fluctuants. On a eu un sondage qui a fait état d'à peu près 2500 personnes qui se disaient Aïnous en 1989. Et après, les chiffres plongent pour des raisons qu'on ne connaît pas.
Pourquoi il n'y a pas de recensement? C'est le pouvoir politique japonais qui ne tient pas donc trop à susciter quelque idée?
Je pense que ça doit certainement être une des raisons. Après, je sais que l'association des Aïnous de Hokkaido, une de leurs revendications actuelles est d'effectuer un sondage d'ampleur nationale, d'autant plus que comme la population Aïnou a été reconnue population autochtone du Japon en 2008, peut-être que ça a pu débloquer certains complexes qui existent parmi des gens qui savent qu'ils ont des ancêtres Aïnou, mais qui n'osent pas forcément encore peut-être le dire.
Et puis, bien sûr, il y a le problème du métissage.
Il y a évidemment le problème du métissage. Et
on se reconnaît ou on ne se reconnaît pas.
Exactement. Et il y a un nombre, je pense, non négligeable de personnes qui peut-être ignorent qu'ils sont des ancêtres Aïnous. C'est le cas, par exemple, d'un chanteur et d'un joueur de tonkoli Aïnou qui s'appelle Oki, qui a un groupe qui s'appelle le Aïnou Dub Band, qui jusqu'à ses 20 ans ou 30 ans, je pense, ignorait qu'il avait des ancêtres Aïnous. Et sa mère lui aurait dit relativement sur le tard. Et après, il a embrassé la culture Aïnou. Donc on peut s'imaginer que d'autres, peut-être, comme Oki, ignorent qu'ils sont des ancêtres Aïnous aujourd'hui.
Avant de voir l'origine de cette société, je vous propose de faire un peu d'anthropologie sociale, d'anthropologie culturelle. L'Aïnou traditionnel ou folklorique est barbu, porte des vêtements aux étranges motifs. Mais que peut-on dire sur sa société?
Alors moi, je m'attache plus particulièrement à la société des Aïnous de Hokkaido, parce qu'il y a des différences culturelles un petit peu avec les Aïnous des Kouriles et de Sakhaline. Les Aïnous de Hokkaido étaient une population de chasseurs, pêcheurs, cueilleurs qui pratiquaient une agriculture limitée et qui étaient aussi des intermédiaires commerciaux dans la région. Donc entre les Japonais au sud et les Nivques, les Gilliaques sur Sakhaline et plus loin les Mandchous sur le continent. Alors on pourrait définir la société Aïnou comme une société sans État, d'après ce que peut nous dire Pierre Clastre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une société qui a un pouvoir politique non coercitif. Alors là, c'est peut-être un peu des gros mots. Ce qu'on peut dire, c'est que les décisions étaient prises au niveau du village et de manière collégiale. C'est-à-dire que les têtes de famille allaient se réunir et décider de ce qu'il fallait faire pour le bien-être du village. Mais il n'y avait pas vraiment d'entité politique Aïnou.
On n'est même pas dans le stade de la chefferie. On est peut-être dans le clan, alors, dans ces cas-là?
Alors, il y avait, un chef de village, celui qui possédait le plus de trésors, donc celui qui avait le plus de rapports commerciaux avec les Japonais. Donc, il y a quand même quelqu'un qui a le dernier mot. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il fallait aussi, pour être chef, avoir une capacité de parole et être un bon orateur. Ça, c'était quelque chose de très important, parce que de temps en temps, quand il y avait des problèmes au niveau de la géographie des terrains de chasse entre différents villages Aïnous, le représentant du village, donc le chef, devait pouvoir tenir des jours entiers sans manger, et discuter avec son interface du village d'à côté pour essayer de régler le problème. Donc c'était quand même assez important.
On est dans une sorte de société patriarcale, polygame, c'est bien ça ?
Alors polygame pour ceux qui le pouvaient, c'est-à-dire ceux qui possédaient de nombreux trésors et qui pouvaient se permettre donc d'avoir dans leur foyer plusieurs femmes et donc beaucoup d'enfants qui n'étaient pas forcément très productifs quand ils étaient petits.
Et leur société est de type animiste.
Voilà, tout à fait. Ils vivaient donc à Hokkaido, qui est, quand on y va encore aujourd'hui, une nature splendide. Et ils considéraient que les kamui, donc les divinités, quand ils ne vivaient pas au pays des dieux, venaient faire des petits tours sur Terre et habitaient des réceptacles qui étaient la faune, la flore et certains phénomènes climatiques. Et donc ces kamui venaient se balader dans le monde des hommes, qu'ils appelaient Ainu Moshir. Et quand ils étaient soit récoltés dans le cas de flore, soit tués dans le cas d'animaux, il fallait procéder à une cérémonie de renvoi pour que l'âme du dieu soit content de son séjour sur Terre et revienne voir les Ainu.
Et c'est là où on parle de l'ours, cet ours qui est si important dans cette société.
Tout à fait, c'est peut-être une des choses les plus connues concernant la culture Ainu, la cérémonie de renvoi de l'âme de la divinité de l'ours qui s'appelle Iomante et qui était vraiment le seul moment véritablement où beaucoup de villages Ainu pouvaient se retrouver. Et il y avait plusieurs jours de fêtes, des libations. Et un ours qui avait été élevé par une famille Ainu était sacrifié. Et l'important, c'était que l'ours ait passé un bon moment, qu'il ait vu des belles danses, qu'il ait vu des beaux chants et qu'il ait envie de revenir dans ce village pour pouvoir voir la suite. Il y avait même des contes qu'on laissait, dont on ne racontait pas la fin, pour que la divinité ait envie de revenir pour entendre la fin du conte.
Donc ce sont aussi, entre guillemets, des éleveurs et ils élèvent des petits ours.
Voilà, chaque famille, encore une fois, qui pouvait se le permettre, parce qu'il faut nourrir un petit ourson. Je m'y connais pas, mais je pense que ça mange quand même un petit peu. Les familles qui pouvaient se le permettre élevaient donc un petit ourson dans le but d'organiser cette cérémonie d'Iomante.
Et les femmes Ainu allaitaient les oursons.
Alors, ça, c'est
du moins d'après les Japonais.
Ouais, c'est invérifiable, mais il est vrai que sur de nombreuses représentations, alors assez anciennes, hein, on parle plutôt 17e, 18e siècle, on voit des femmes Ainu qui allaitent des oursons. Mais c'est difficilement vérifiable.
L'étude des Ainu semble très tardive. Elle commence au tournant de l'ère Meiji. On va dire que c'est à peu près le 19e siècle. C'est le temps de missionnaires, notamment d'un grand chercheur, John Bachelor.
Voilà, tout à fait. Il y a eu deux courants de recherche sur les Ainu. Un courant plutôt donc occidental qui a été effectué par des missionnaires qui sont allés sur place à l'ouverture du Japon, mais aussi par des voyageurs. Il y a Isabella Bard, par exemple, qui a écrit sur les Ainu. Et du côté japonais, c'est d'abord des folkloristes et des linguistes qui se sont intéressés aux Ainu avant que ceux-ci fassent l'objet de débats d'ordre plus anthropologique et raciaux.
Et l'incontestable spécialiste est sans doute Takakura, qui d'ailleurs prenait, lui, l'assimilation des Ainu au monde japonais.
Alors Takakura Shinichiro, tout à fait, qu'on considère comme le père des études Ainu, lui fait partie d'une seconde vague de chercheurs, c'est-à-dire plutôt dans les années 30, à l'époque où le Japon était en pleine expansion impériale et que l'objet d'étude était devenu les mesures d'assimilation vis-à-vis des Ainu, dans l'optique d'assimiler les autres populations sous joug impérial japonais.
Quelle sera la vision de deux anthropologues suisses et français, Georges Montandon et André Leroy-Gourand, qui ont eu la chance de visiter donc cette société dans les années 1919 et 1937, d'après mes souvenirs?
Tout à fait. Georges Montandon avait été mandaté par la Croix-Rouge internationale, me semble-t-il, pour aller récupérer des prisonniers autrichiens en Sibérie après la Première Guerre mondiale. Et il en a donc profité pour étudier les Ainu de Sakhaline. Et il en a déduit, après ses recherches, que c'était des proto-europoïdes. Donc des lointains cousins de nos lointains ancêtres.
Leroy-Gourand, deux mots. peut-être, sur ce grand préhistorien.
Le roi Gouran fait un voyage au Japon avec sa femme Arlette en 1939 et visite Hokkaido à cette occasion. Ils prennent beaucoup, beaucoup de photos, énormément de notes, mais apparemment, à leur retour en France, malheureusement, la guerre éclate. Et après, il y a une interdiction de publication sur le Japon. Et donc, ils peuvent malheureusement pas publier tout de suite ces notes qui sont parvenues jusqu'à nous en 1989 seulement.
Les chants épiques sont une des caractéristiques, un élément identitaire des Aïnous. Je vous propose d'en écouter un fragment. Naomi Godefroy, un commentaire sur ce bref morceau de musique très exotique, bien sûr.
Alors, bien sûr, il ne s'agit pas d'un chant traditionnel Aïnou, là, mais d'une guimbarde Aïnou qui s'appelle le Mukuli et qui fait partie des instruments traditionnels Aïnou. Et le but de la musique au Mukuli était d'essayer de retranscrire musicalement la nature qui entourait les Aïnou. Donc c'est tout un programme.
Pour les éditeurs du Salon Noir de France Culture, je rappelle, Naomi Godefroy, que vous venez de soutenir votre thèse sur l'histoire des Aïnous, ce peuple septentrional du Japon. Voyons les origines de ces Aïnous. La préhistoire japonaise est dominée par une période que l'on dénomme la culture Jomon, une longue période où des groupes de chasseurs-pêcheurs sédentaires possèdent déjà la poterie. L'île de Hokkaido est-elle déjà intégrée à cette culture Jomon?
Alors, l'île de Hokkaido est tout à fait intégrée à la culture Jomon. En fait, la première rupture culturelle, si on peut parler ainsi, aura lieu quand la culture Yayoi, donc cette vague de population qui arrive autour de moins 300 au Japon, va introduire la riziculture en particulier, et donc s'étendre sur l'île principale de Honshu. Mais l'extrême nord de cette île et la Hokkaido gardent une espèce de culture métissée qu'on appelle Zoku Jomon, donc Jomon prolongé, avec sans riziculture inondée, mais avec toujours des types de poterie.
Donc les populations Aïnou peuvent-elles être les descendantes de ces populations préhistoriques Jomon, très très anciennes, juste après le paléolithique?
Alors les origines du peuplement Aïnou ont fait l'objet de très très nombreux débats. Justement, il était question pendant très longtemps d'une alternance, c'est-à-dire que la vague Yayoi étant arrivée au Japon, apportant avec elle la civilisation, auraient été les ancêtres des Japonais d'aujourd'hui, mais que la population Jomon, donc supplantée, repoussée vers le nord, aurait été les ancêtres des Aïnous. Or, on sait aujourd'hui que la réalité est beaucoup plus complexe.
Que nous dit la génétique?
Alors, il y a
C'est un bel élément maintenant, nouveau.
Alors, en 1991, Hanihara Kazuru a mis en place un système qui est un système de structure duale, c'est-à-dire que l'ensemble des habitants de l'archipel japonais seraient issus de métissage entre cette population Yayoi et la population de Jomon, mais à des niveaux un petit peu différents. C'est-à-dire que les habitants des marges septentrionales et méridionales auraient été moins métissés et après les Japonais du centre, si on veut, auraient été métissés à différents degrés.
Alors j'ai lu aussi que la génétique tendrait à montrer que les îles Andaman, qui sont entre l'Inde et la péninsule malaise, avaient des caractères génétiques à peu près, ou du moins assez proches, des populations Aïnou. Faisons un bond, bien sûr, dans le temps, vers le 8e siècle. L'île de Hokkaido possède deux cultures. La première semble encore très séparée du Japon et possède notamment des habitations très particulières.
Alors là, il s'agirait certainement de la structure Satsuman, qui est caractérisée toujours par des échanges avec les voisins méridionaux, par un type de poterie particulière. particulière. Et il y aurait dans le nord de Hokkaido une culture qui, elle, serait venue du continent, donc qui se serait étendue vers le sud, la culture d'Okhotsk, qui se rencontre et qui donc s'influence mutuellement.
Alors je crois qu'il y a une très belle fouille sur un amas coquillier, ces habitats côtiers où l'on mange beaucoup de coquillages et qui appartient à peu près à cette période. On y a découvert des choses très intéressantes dedans.
Voilà, tout à fait. Il semblerait qu'un des vestiges les plus importants de la culture d'Okhotsk qui reste présent à Hokkaido, dans le nord de Hokkaido, soit l'amas coquillier de Moyoro, près de la ville d'Abashiri. Et que donc, comme pour les amas coquillés du reste du Japon, on y découvre énormément de choses. Parce que du fait de l'acidité des sols au Japon, c'est très difficile de trouver des restes, des squelettes. Mais le calcaire des amas coquillés a permis de retrouver des squelettes un petit peu plus parlants.
Et notamment des miroirs chinois d'époque Song.
Tout à fait.
Ce qui prouve les liens donc commerciaux.
Les liens commerciaux, et ce très très tôt. Très très tôt, oui.
Peut-on voir dans cette société une proto-société Ainu, c'est-à-dire annonçant le début de la société Ainu?
Alors tout à fait, la société Ainu qui émerge un petit peu plus tard a pris des éléments culturels de la culture Satsuman et de cette culture d'Okhotsk. On pense en particulier que justement le culte de l'ours viendrait plutôt donc de la partie Okhotsk, mais que la culture Satsuman, très influencée par la culture japonaise, aurait permis des échanges linguistiques. Il y a des mots Ainu, un nombre assez significatif de mots Ainu qui viendraient du japonais, dont le mot pour Dieu d'ailleurs.
À quel moment voit-on réellement l'émergence de cette société Ainu?
Alors vers le 12e-13e siècle, au moment où apparaît une altérité très très forte continentale en la personne des Mongols qui se rendent sur Sakhalin et repoussent les populations autochtones. Les Ainu, donc maintenant on peut parler de Ainu, se rebellent et vont se battre contre les Mongols à Sakhalin.
C'est-à-dire que cette unité naît de par le phénomène de résistance contre l'implantation mongole dans les îles Sakhalin.
Tout à fait, tout à fait.
Parlons deux mots. Il y a des fouilles archéologiques sur cette période à Ainu. Est-ce que l'on fouille? Est-ce que les Japonais s'intéressent, Japonais de la Grande Île, s'intéressent à ce genre de choses?
Alors, les principales fouilles archéologiques ont eu lieu alors plutôt à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Alors, bien sûr, il y a encore des fouilles aujourd'hui, mais les fouilles qui ont eu le plus de d'écho au Japon ont eu lieu à ce moment-là parce qu'il était important de trouver les origines du peuple japonais et donc les origines du peuple Ainu. Et forcément, il fallait définir qui étaient les préhistoriques et qui étaient les civilisés.
En tout cas, à quel moment peut-on penser que les Ainu ont été intégrés au monde japonais?
Alors, du fait des relations commerciales, ils faisaient partie de la sphère japonaise assez tôt. Mais l'implantation japonaise dans le sud de Hokkaido date à peu près du XIIIe siècle. Donc, on peut vraiment imaginer qu'il y a eu des rapports beaucoup plus intenses à partir de ce moment-là.
Et on peut parler de réelle ségrégation?
Alors, pendant toute la période donc, qui a suivi le XIIIe siècle et jusqu'à Meiji, les Ainu ont été dissimulés, c'est-à-dire qu'on les représentait comme justement des barbares poilus qui buvaient du sang, qui vivaient comme des animaux, qui allaitaient des oursons. On mettait beaucoup en exergue tout ce qui était qui marquait la différence de civilisation entre les Japonais et les Ainu. Entre autres, les tatouages autour de la bouche des femmes étaient un des sujets favoris.
Jusque dans les années 1945, les recherches portent sur un peuple dit inférieur, en voie d'extinction, Orobiyoku Minzoku, c'est bien ça?
Tout à fait.
L'accent ne doit pas y être.
Très bon accent, si.
Donc, un peuple inférieur?
Alors, à l'arrivée de Meiji, comme je l'ai dit tout à l'heure, il était important d'assimiler les Ainu. Et dans le but de construction de l'État-nation de Meiji, il était important que la population japonaise soit perçue par le reste du monde comme une population homogène, qui était unie derrière l'empereur. Et donc, de fait, les Ainu ont disparu. Ont disparu du discours dominant et ont disparu donc d'après de nombreux chercheurs à l'époque.
À vous lire dans, à lire votre thèse, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de dénominations qui évoluaient donc à propos de ces Aïnous.
Oui, tout à fait. Aïnou, c'est un terme relativement récent. C'est au tout début du 19e siècle qu'un explorateur s'en sert pour la première fois, se rendant compte qu'eux-mêmes s'appellent les Aïnous. Avant, ils étaient appelés les Ezo, par exemple, qui rappelaient leur côté barbare.
Le Japon, c'est bien entendu une puissance coloniale extra-occidentale. C'est aussi, semble-t-il, une nation qui lutte contre la diversité culturelle au sein du pays, ou du moins qui luttait.
Alors, il est vrai que pendant très longtemps, justement, ce discours dominant d'homogénéité de la population japonaise était le discours officiel. On parle souvent des hommes politiques japonais qui, dans les années 1980, niaient l'existence de minorités au sein de la population japonaise. Alors, ça Dieu merci, évolué depuis, en particulier par le combat d'associations de Aïnou à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale.
Et avant la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 1937, c'est la fermeture de la dernière école spéciale pour les Aïnous.
Tout à fait. Comme les Aïnous étaient un peuple en voie de disparition et qu'ils étaient désormais assimilés, il n'y avait plus véritablement besoin d'écoles particulières pour les indigènes. Et en effet, en 1937, l'appellation ancien indigène ne perdure que dans le titre de la loi de protection. Il disparaît.
On peut dire que les Aïnous sont passés par une sorte de racialisation et d'assimilation avant que leur disparition soit plus ou moins programmée.
Tout à fait. Donc suite à la dissimulation qui a eu lieu jusqu'à Meiji, il fallait les assimiler. Et une fois qu'ils ont été assimilés, ils ont donc disparu en tant que tels.
Le combat politique des Aïnous aujourd'hui, c'est quoi exactement ?
Alors le combat politique des Aïnous aujourd'hui est relativement, j'ai envie de dire, ancien déjà, parce que c'est plutôt dans les années 70 et les années 80 qu'il s'est mis en marche.
Avant, il n'y avait rien.
Avant, donc, comme les Aïnous avaient, entre guillemets, disparu, il y avait des associations de Aïnous, mais qui étaient sous l'égide du gouvernement de Hokkaido. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment de mouvement Aïnou véritablement autonome. Et ce n'est qu'en 1946, avec la mise en place de l'association des Aïnous de Hokkaido, que les Aïnous ont véritablement eu une voix autonome, indépendante, qui n'était pas sous l'égide gouvernementale.
Le combat politique des Aïnous est passé par leur indigénisation, pourrait-on dire. C'est un mot absolument imprononçable.
Tout à fait.
Ça a été un outil pour eux.
Alors, il se trouve que dans les années 70, on a un jeune Aïnou, enfin il était jeune à l'époque, Kayano Shigeru, qui a commencé à s'intéresser à la culture Aïnou et à vouloir ouvrir des musées, mais des musées Aïnou, c'est-à-dire pas des musées qui cherchaient à attirer les touristes et à attirer les chalands, mais véritablement pour montrer la culture que lui-même avait connue chez sa grand-mère et avec ses parents. Et de culturel, son combat est devenu législatif et après donc indigène, dans le sens où ils sont passés par des forums internationaux, des associations comme les Nations Unies, pour être reconnus à l'intérieur du Japon comme une minorité et un peuple autochtone.
Avec un fameux discours en Aïnou à la Diète japonaise, c'est bien
oui,
ça ?
Oui, en 1994, il a été élu à la Diète. C'est le premier, pour l'instant le seul représentant Aïnou à la Diète. Et il s'est adressé à ses collègues en langue Aïnou. On peut retrouver le discours sur Internet. Bon, je ne parle pas Aïnou, mais... Il cherchait à dire que la langue Aïnou méritait, comme la langue japonaise, d'être considérée comme une langue du Japon.
En tout cas, en 2008, la Diète reconnaît les Aïnous comme peuple autochtone.
Tout à fait, oui.
Une vraie victoire.
Alors, je pense que c'est une vraie victoire. Il faudrait demander à quelqu'un d'Aïnou pour avoir une réponse plus légitime. Mais je pense que c'est déjà un premier pas.
En tout cas, ils ont eu un passé. Pensez-vous qu'ils ont un avenir, ces Aïnous ?
Je suis sûre qu'ils ont un avenir. Je pense que ce qui s'est passé en 2008 va quand même décomplexer peut-être certaines personnes. Et il existe des groupes de musique pop Aïnou qui continuent à faire connaître la culture.
Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez À l'écoute des Japons, le podcast du Centre de recherche sur le Japon de l'EHESS. Je suis Grégoire Sastre et pour cet épisode, je reçois Noémie Godefroy. Elle est maîtresse de conférence à l'INALCO et chercheuse à l'IFRAE, ainsi que rattachée au Centre de recherche sur le Japon de l'EHESS. Ses travaux portent sur le Japon prémoderne et en particulier sur la place de Hokkaido dans l'histoire japonaise. Bonjour Noémie et merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci de me recevoir.
Et bien, tout simplement pour commencer, et afin de donner donc une toile de fond à nos auditeurs, est-ce que tu pourrais nous exposer la spécificité de l'île d'Hokkaido et des territoires du Nord ?
Alors aujourd'hui, je pense qu'on peut dire que l'île de Hokkaido et les territoires du Nord, il s'agit en fait de deux choses différentes. Donc comme je pense la plupart des gens le savent, Hokkaido est l'une des quatre îles principales de l'archipel japonais. C'est celle qui se situe le plus au nord, celle qui ressemble à un petit cerf-volant, comme j'aime bien dire à mes étudiants. Alors que l'expression « territoire du Nord », donc en japonais « Hoporyodo », désigne les îles Kuriles méridionales, c'est-à-dire l'archipel des Kuriles qui va de Hokkaido jusqu'au Kamchatka. Eh bien, le plus au sud de cet archipel, il y a certaines îles, les rochers Habomai, Shikotan, Kunashir et Iturup, qui faisaient partie intégrante du territoire japonais avant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc en fait, quand on parle de Hokkaido et des territoires du Nord, aujourd'hui, on parle de deux choses très différentes et de pays différents même. Mais avant tout ça, avant les conflits, avant les traités, avant même qu'il y ait la présence russe ou la présence japonaise dans cette région, Hokkaido et les territoires du Nord étaient en fait des territoires occupés par une population qui s'appelle les Ainu. Et finalement, c'est ça qui m'a intéressée quand j'étais étudiante à l'INALCO, il y a de cela maintenant un peu longtemps. Ce qui m'a intéressée, c'est d'en savoir un petit peu plus sur ces Ainu, sur ces populations autochtones du Nord. Et c'est en fait un peu pour ça que je me suis lancée dans la recherche en master et que j'en suis finalement pas vraiment sortie encore aujourd'hui.
D'accord. Et donc, il y a des, comme tu le dis, il y a des différences de rapport hein, entre donc, ces territoires du Nord et Hokkaido et donc le Japon. Et donc, j'aimerais que tu nous expliques comment ces rapports entre le Japon et ces territoires-là s'est construit au fil du temps, notamment sur la période qui t'intéresse.
Alors, quand on étudie une période dans l'histoire, il y a forcément un moment où on doit aller se pencher sur ce qui se passe un petit peu avant, hein, ça fait partie du jeu. Donc, je suis pas à proprement parler une spécialiste des époques anciennes et il y a d'autres chercheurs que moi qui ont beaucoup mieux écrit sur la question. Mais en fait, c'est un processus qui est vraiment long, le rapport du Japon à ces territoires septentrionaux. Donc là, si je me suis un petit peu basée sur donc d'autres études, d'autres chercheurs, donc je pense en particulier à Kumakimio au Japon ou bien Carl Friday. Essentiellement, ce qu'il faut se dire, c'est que la soumission au pouvoir impérial, même de l'île principale de Honshu, a été très longue. Et on entend souvent parler du terme Emishi quand on étudie un petit peu cette région. Ce terme qui désignait des populations insoumises qui vivaient dans le nord de l'île de Honshu et apparemment au-delà du détroit de Tsugaru aussi dans le sud de Hokkaido et qui étaient donc des populations qui refusaient de payer les impôts, qui refusaient de reconnaître l'autorité de l'empereur. Et au cours des siècles, donc la fin de l'Antiquité japonaise et au début du Moyen-Âge, ces populations on peu à peu, alors dans les textes on dit était soumise, ce qui signifie, je pense, de manière effective ou de manière un petit peu logistique, que soit finalement elles sont tombées sous le joug, elles ont commencé à payer leurs impôts, elles se sont sédentarisées, elles ont commencé à pratiquer l'agriculture, soit elles ont donc tout simplement été intégrées à la population dite japonaise, soit elles ont migré et elles se sont déplacées un petit peu plus vers le nord. Alors, ce qu'on sait de ces Emishi, d'après les sources japonaises donc d'époque, c'est qu'il y en avait qui parlaient le japonais et qu'il y en avait qui, semble-t-il, n'étaient pas audibles, parlaient une langue incompréhensible pour les Japonais. Et on pense que ce sont donc ces derniers qui sont liés aux Ainu, qui seraient donc peut-être un petit peu les ancêtres, si on veut, des Ainu. Et il y a eu des études qui ont été menées sur les toponymes de cette région du nord de Honshu qui ont révélé qu'un certain nombre de lieux dans ces régions contenaient le suffixe « betsu » en japonais qui serait associée à la langue Ainu Pek pour signifier les cours d'eau. Donc, même si on n'a pas vraiment de sources Ainu et si les sources médiévales sont parfois un petit peu parcellaires, on peut penser que dans le nord de l'île de Honshu vivaient des populations qu'on pourrait appeler Ainu. Mais ce qui est certain, et ce que toute cette recherche nous apporte, c'est qu'il y avait des liens extrêmement forts, des liens commerciaux, des liens culturels et des liens parfois conflictuels entre toutes ces populations du nord, qu'il s'agisse des Ainu ou des ancêtres des Ainu et des Japonais. Alors, je te parlais de recherches sur les toponymes il y a un instant, mais il y a eu aussi bien sûr des recherches en linguistique qui se sont focalisées sur les rapports entre les langues japonaises anciennes et le Ainu, le proto-Ainu, et l'exemple qu'on aime citer pour matérialiser un peu ces contacts super très très anciens, c'est les mots kami en japonais et kamui en ainu pour désigner les divinités. Donc les contacts anciens n'ont pas du tout cessé avec la mise en place du shogunat, des shogunats successifs, même à partir du XIIe siècle. Et au contraire, il y a eu des clans, des familles puissantes japonaises du Nord qui ont véritablement construit leur influence, construit leur puissance sur le commerce, les échanges entre Japonais et Ainu. Et ça a mené à des liens d'interdépendance finalement très très forts. Donc parmi les produits phares de ce commerce, il y avait le saumon bien sûr, il y avait des fourrures, il y avait des plumes de faucons et d'aigles qui étaient très prisées et qui étaient considérées comme des biens de luxe finalement au Japon. Et côté Ainu, il y avait pareil des objets japonais en laque plus particulièrement, des objets en fer, des lames de couteaux, qui étaient aussi considérés comme des objets de luxe pour les Ainu. Donc en fait, je pense que ce qu'il faut retenir de toute cette petite histoire, c'est qu'il y a des liens très forts, il y a des liens très anciens et il y a des liens d'interdépendance. Donc c'est pas uniquement une histoire de domination, bien qu'évidemment il soit question de domination, mais il y a aussi des besoins mutuels et une population n'aurait pas pu vivre sans l'autre. Et finalement, ces liens d'interdépendance n'ont fait que s'accroître et on finit par rendre nécessaire, à motiver une présence japonaise permanente au sud de l'île de Hokkaido et l'instauration d'un fief, d'un domaine, celui de Matsumae, à l'orée du XVIIe siècle, sous les shoguns Tokugawa. Et c'est en fait un peu là que mes propres recherches ont vraiment commencé, c'est sur cette histoire des rapports Nippo-Ainu, à partir du moment où véritablement il y a un siège de pouvoir économique, institutionnel au sud de Hokkaido.
Donc nous sommes dans ton récit, nous sommes à l'orée de la période Edo. Que se passe-t-il entre le Japon et Hokkaido à ce moment-là?
Alors, Hokkaido, bien que l'île soit pas désignée sous cette appellation à l'époque, hein, on parle d'Ezo pour désigner Hokkaido et les courils méridionales. Donc, pendant l'époque d'Edo, Hokkaido va prendre une importance toute particulière aux yeux du shogunat. À partir des années 1630, il y a des restrictions maritimes qui sont mises en place, des restrictions dites d'ouverture sélective, en vertu desquelles le shogunat, essaye de contrôler le plus possible les rapports qu'ils ont avec l'étranger et donc de facto limite les liens diplomatiques et commerciaux. Et donc Hokkaido, en restant une sorte de porte entrouverte avec l'étranger, va permettre au shogunat de mettre la main sur des produits qui sont très enviables dans le commerce qu'ils ont maintenu avec la Chine. Parce qu'en effet, à Hokkaido, on trouve de nombreux produits de la mer, de nombreux produits halieutiques qui comptent par exemple les concombres de mer, les ormeaux, qu'on appelle aussi les oreilles de mer, et ce sont des produits qui, sous leur forme séchée, vont être des produits phares du commerce entre la Chine et le Japon. Donc, Hokkaido va se révéler un endroit très, très utile financièrement pour le shogunat en termes de commerce extérieur. Mais on va aussi se rendre compte que Hokkaido possède d'autres atouts pour le commerce intérieur, si on veut, parce qu'à Hokkaido, il y a beaucoup de harengs. Et que ce hareng, une fois qu'il est traité, qu'il est réduit en poudre et répandu sur les champs, va pouvoir les rendre beaucoup plus fertiles. Et finalement, c'est ce produit également, le hareng, qui va devenir l'un des produits phares de Hokkaido au Japon. Alors bien évidemment, comme Hokkaido est encore relativement peu peuplé, donc même s'il y a le fief, le domaine de Matsumae qui existe au sud de l'île, il faut quand même de la main d'œuvre pour sécher tous les produits, pour les mettre en ballot, pour fabriquer donc cet engrais à base de hareng. Et là, les marchands japonais vont dépendre des Aïnous. Donc un nouveau lien d'interdépendance va se créer entre Japonais et Aïnous à Hokkaido. Alors, bien évidemment, ça va être des liens d'interdépendance de plus en plus déséquilibrés, parce que les Aïnous ne peuvent pas à la fois travailler en tant que main-d'œuvre et continuer à vivre de la chasse, de la pêche, de l'agriculture, etc. Les Japonais vont comprendre que les produits que les Aïnous souhaitent de leur part, eh bien, au lieu de les échanger, ils vont pouvoir leur verser en tant que sorte de salaire. Et finalement, on va se retrouver avec des relations qui vont être de moins en moins équilibrées. Cet intérêt économique de Hokkaido va motiver le déplacement de Japonais sur l'île. Donc, on estime que dès 1750, la population japonaise de l'île va atteindre et puis dépasser la population Aïnou. Il y aura également des travailleurs saisonniers. Donc ça, c'est la première conséquence. Et la seconde conséquence, c'est que le domaine de Matsumae n'est pas du tout capable de gérer le traitement, la manufacture, le stockage de tous ces produits, et que c'est des marchands qui vont s'installer au-delà des frontières domaniales. Donc finalement, là où théoriquement les Japonais ne devraient pas pouvoir vivre, en dehors du Japon, en dehors du domaine de Matsumae, ils vont finalement s'installer et ça va causer des problèmes.
Là, tu nous as présenté donc cette relation de très long terme entre Hokkaido, les populations qui vivent sur cette île et le Japon et ses populations, mais Hokkaido, hein, pour qui regarde une carte, se situe tout de même en face à face avec la Russie et également avec la Chine. Et donc, c'est une île qui, en un sens, peut appartenir à d'autres sphères d'influence que la seule sphère japonaise. Et donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer si ces sphères ont existé et comment elles se sont constituées?
En effet, là, j'ai surtout parlé de l'importance qu'avait Hokkaido aux yeux des Japonais. Et quand je dis Japonais, c'est essentiellement du gouvernement shogunal, du domaine de Matsumae et des marchands au XVIIIe siècle, de l'importance économique donc. Mais à partir de la fin du XVIIIe siècle, il va y avoir d'autres enjeux qui vont apparaître plus clairement, en particulier aux yeux du shogunat, des gouvernants et des lettrés. C'est l'enjeu géostratégique de Hokkaido. En effet, tu le disais très justement tout à l'heure, pour qui regarde une carte, on se rend compte que Hokkaido, aujourd'hui en tout cas, est un petit peu entre plusieurs grandes aires, entre plusieurs zones d'influence. Et c'est fréquemment quelque chose qu'on oublie si on n'étudie pas un petit peu de près cette région, c'est que finalement l'espace Aïnou, c'est Hokkaido, les Kuriles, jusqu'au Kamchatka, et puis l'île de Sakhaline. C'est-à-dire que c'est un espace qui a une forte composante maritime aussi. On pense Hokkaido, Aïnou égale Hokkaido, mais en fait, cet espace Aïnou ceinture un petit peu la mer d'Okhotsk, a une ouverture sur le Pacifique Nord, a une ouverture sur la mer du Japon, donc par définition, a pour vocation à un moment donné de devenir une sorte de plaque tournante. Et c'est vraiment en fait ce qui va se passer au XVIIIe siècle. Donc là, il faut que je reparte encore un petit peu en arrière et que je parle un petit peu des Russes, même si ce n'est pas du tout mon domaine de spécialité. Mais on assiste donc depuis à peu près le XVIe siècle à une expansion russe vers l'Est, qui est entre autres motivée par l'obtention de fourrures, en particulier des fourrures de zibeline, qui étaient très demandées en Europe, au point que certaines sources parlent de la zibeline comme étant l'or doux. Elles étaient revendues, ces peaux, ces fourrures, à très haut prix. Et il y avait deux manières de les obtenir, donc soit de chasser, donc il y a des gens qui sont allés faire des activités de trappeurs, et une autre manière de les obtenir, c'était de soumettre des populations et d'obtenir un impôt qui s'appelait le yassak, alors je prononce très mal, dont on pouvait s'acquitter en fait en cédant des fourrures. Donc finalement, ça a motivé au cours des siècles une expansion russe jusqu'au Pacifique.
Excuse-moi, pour clarifier, cette expansion, c'est le fait de marchands ou est-ce qu'il y a tout de même l'État qui est derrière celle-ci?
Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est pas du tout mon domaine de spécialité. Les sources que moi j'ai pu consulter sont essentiellement des sources secondaires, hein, bien évidemment. J'aimerais un jour être capable de lire les sources russes dans le texte, mais ce n'est pas encore le cas. En fait, il y a eu, d'après ce que j'ai compris, il y a eu plusieurs mouvements d'expansion, mais ceux qui ont été le plus en contact avec essentiellement avec les Aïnous, ce sont donc des alors, géodésistes, je suppose que donc des explorateurs qui avaient aussi pour but de faire des sondages de ressources naturelles. Il y a des marchands. Qui sont parfois désignés sous le terme de trappeurs, donc pas vraiment des marchands venant de maisons marchandes spécifiques, mais plutôt des individus ou des groupes d'individus qui allaient essayer de récupérer fourrure. Je sais que par la suite, il y a des pétitions de certains personnage haut placé auprès des tsars pour obtenir le droit d'avoir des compagnies marchandes. La compagnie russe d'Amérique, un peu plus tard, est un exemple. Mais c'est vrai qu'au départ, les premiers contacts entre les Russes et les Aïnous, c'est plutôt soit des individus, soit des gens qui ont été mandatés, mais pour des missions de cartographie. Voilà.
D'accord.
Et quand les Russes finalement sont arrivés au Pacifique, ils ont essayé d'aller au sud où ils se sont heurtés aux intérêts chinois. Il y a eu d'ailleurs des batailles que les Russes ont perdues. Ensuite, ils ont essayé d'aller vers le nord où ils ont été arrêtés par les Tchouktches. Et donc finalement, ils ont traversé le bras de mer jusqu'au sud du Kamchatka. Et c'est là qu'ils se sont rendus compte, en rencontrant un naufragé japonais, que le Japon n'était finalement pas si loin et qu'il y avait une population autochtone, les Aïnous, qui chassaient la loutre de mer, qui est devenue une autre fourrure de prédilection. Bon, finalement, pour la fin de cette petite histoire russe, il y a eu l'installation de comptoirs de commerce, donc où des Aïnous pouvaient venir échanger des fourrures contre des produits russes. Les Russes sont finalement sont installés de fil en aïeule, donc au Kamchatka, dans les Aléoutiennes, en Alaska et jusqu'au nord de la Californie, d'ailleurs au début du 19e siècle.
Ouais, je pense qu'il faut aussi rappeler, hein, que voilà, quand tu parles de batailles avec les Chinois, j'imagine que c'était des batailles d'assez avec sans doute assez peu de force en présence. L'Extrême-Orient russe, il y a un petit peu rien du tout à l'époque, hein. Il y a pas de train, je ne sais pas s'il y a beaucoup de routes. C'est quand même un espace, il faut garder ça à l'esprit, c'est quand même un espace relativement vierge.
Absolument, la bataille de Nertchinsk, qui a donné son nom au traité éponyme justement de traité de paix et de qui pose un peu les règles des échanges commerciaux entre les Russes et les Japonais à partir de 1689. En effet, il s'agit d'avant-poste où c'est pas du tout en effet le type de topographie ou d'urbanisation qu'on connaît aujourd'hui. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le caractère vaste de cette zone va obliger finalement les Russes qui se trouvent dans les Kourils ou dans ces régions-là à réfléchir à ouvrir de nouveaux marchés, parce que c'est très coûteux finalement de renvoyer toutes ces fourrures jusqu'à Moscou, jusqu'à Saint-Pétersbourg, les échanges commerciaux avec les Chinois sont extrêmement limités du fait des traités de Nerchinsk et de Kiatka. Et c'est ça qui va motiver les Russes à essayer d'entrer en contact avec les Japonais, dont ils savent très bien qu'ils sont à l'extrémité sud de l'archipel des Kourils. Et donc c'est d'abord avec les Aïnous que ces marchands, ces trappeurs russes vont être en contact, en sachant que l'objectif à atteindre, ce serait le Japon. Et d'ailleurs, là, le gouvernement s'en mêle. Là, c'est une histoire plus institutionnelle, parce que quand ces premiers explorateurs en 1697 ont rencontré donc ce naufragé japonais au sud du Kamchatka, ils se sont rendus compte qu'ils avaient sur les mains, si j'ose dire, quelque chose de très important. Et Dembe, comme il s'appelait, a été envoyé à la capitale. Et à partir de ce moment-là, quelle que soit la personne russe qui rencontrait un naufragé japonais quelque part, il fallait absolument le renvoyer à la capitale. Et il y a une petite dizaine de naufragés japonais qui ont fini leur vie en Russie à enseigner le japonais dans l'école de navigation du gouvernement.
D'accord. Avant de continuer sur ces relations nipporusses, je parlais de la sphère d'influence chinoise. Donc tu me disais que le Japon échangeait des produits venus de Hokkaido avec la Chine, mais est-ce que les Aïnous eux-mêmes avaient des connexions commerciales ou autres avec la Chine?
Alors les Aïnous étaient implantés au sud de Sakhaline. Il semblerait d'ailleurs que cette implantation qui a eu lieu autour du XIIe siècle, si je ne me trompe pas, ait été décrite dans les sources chinoises. Et que ça ne s'est pas fait sans heurts par rapport aux populations autochtones qui occupaient déjà cette région. Et les Aïnous ont donc, à partir de ce moment-là, commencé à commercer avec d'autres populations, les Orok, les Ulch, qui habitaient Sakhaline, que ce soit la partie centrale ou la partie septentrionale, et que certains Aïnous allait même jusqu'au comptoir chinois d'Hélène pour commercer. Alors, là, on est sur des sources que je lis pas ni en langue chinoise ni en russe. Donc, c'est surtout dans des sources secondaires que j'ai trouvé ces informations. Mais il semblerait que les Aïnous de Sakhaline n'aient pas une position aussi dominante entre guillemets, que les Aïnous des Kourils ou du nord de Hokkaido dans les échanges commerciaux, et qu'ils étaient beaucoup moins influents, beaucoup moins puissants que d'autres populations autochtones, et que de ce fait, ils aient parfois été pas vraiment réduits en esclavage, mais que leurs rapports commerciaux avec les Chinois étaient encore plus, et avec les autres populations autochtones, étaient encore plus déséquilibrés.
D'accord. Bon, mais déjà, on peut déjà considérer les Aïnous, parce que souvent, voilà, les relations, c'est entre le Japon, la Russie et la Chine, mais il y avait aussi donc de assez longue date, hein, des relations internationales des Aïnous eux-mêmes avec des Russes, avec des Chinois et avec le Japon.
Absolument, t'as raison de le rappeler, parce qu'il y a une chose que je dis pas, parce que pour moi ça paraît évident maintenant, mais ça l'était pas du tout quand j'ai commencé à étudier les Aïnous. Bêtement, je ne sais pas si on peut dire ça, naïvement peut-être. Pour moi, les Aïnous, au début de ma maîtrise, c'était population homogène de chasseurs, pêcheurs, cueilleurs, qui vivaient en harmonie avec la nature, etc. C'est pas du tout une population homogène, c'est une population très hétérogène qui était fréquemment en conflit intra-ethnique pour des marchés, pour du commerce, pour des raisons commerciales, d'accès aux ressources. Et en fait, les Aïnous, certes, ils chassaient, certes, ils pêchaient, ça faisait partie des activités très importantes de leur vie, de leur subsistance. Ils avaient une agriculture limitée, mais c'était aussi des gens qui pratiquaient le commerce. Donc, c'est vrai que ça sort un peu de l'idée qu'on peut avoir, tu fais bien de le rappeler, de ces populations qui étaient entre plusieurs aires, entre plusieurs zones d'influence, qui s'en servaient le plus possible et qui parfois en souffraient aussi.
Et donc, passons aux relations nipporusses, parce que bon, le Japon, ses relations avec la Chine hein, sont quand même plutôt faites par le biais soit de marchands qui partaient directement en Chine, soit par le biais des Ryukyu ou bien de Kyushu. Pas nécessairement de Hokkaido, c'est surtout la relation avec la Russie qui a été importante. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer comment cette relation entre le Japon et la Russie a vu le jour?
Alors la première chose que j'ai envie de dire, c'est que les Russes étaient conscients de la présence japonaise dans cette région, de la proximité japonaise finalement du Kamchatka et de leur base d'Asie de l'Est, avant que les Japonais ne soient conscients de la présence russe. Et il y a une période vraiment très importante à la fin du XVIIIe siècle, pendant laquelle gouvernants et lettrés japonais vont véritablement prendre conscience de l'importance géostratégique de la région quand ils vont justement apprendre l'existence de ces installations russes dans les Kourils. Alors, c'est un événement absolument imprévu et inattendu qui déclenche un petit peu cette prise de conscience qui a lieu en 1771, qui est désignée en japonaise comme l'avertissement de Maurice Beniowski. Donc là, je vais m'obliger à ne pas en parler parce que sinon je pourrais en parler des heures. Mais donc, ce qu'il faut retenir plutôt de ça, c'est que les lettrés, les gouvernants et les lettrés n'étaient pas du tout préparés à apprendre que les Russes étaient, alors sinon à leur porte, du moins beaucoup moins éloignés qu'ils ne le pensaient. Pour schématiser, d'après les traités géographiques qui circulaient au Japon à l'époque, la Moscovie était un grand pays qui s'étendait au nord-est de la Hollande, et de s'imaginer qu'un pays qui s'étendait au nord-est de la Hollande s'étende du coup au nord-ouest du Japon, c'était quelque chose d'assez étonnant pour eux. Mais finalement, ils se rendent compte aussi, à la fin du XVIIIe siècle, qu'ils voient de plus en plus de gros navires, de navires de fort tonnage, enfin, de navires d'exploration qui longent ou qui sont vus des côtes japonaises, hein, parce que à cette époque, Jean-François Gallo de la Pérouse, James Cook sont en train de cartographier le Pacifique, et même s'ils ne s'arrêtent pas au Japon, la Pérouse va décrire les Aïnous et Cook va parler des territoires du nord du Japon, et donc il y a un intérêt russe et européen pour cette région du monde mal connue. Donc, c'est à ce moment-là que les Japonais, et quand je dis les Japonais, c'est les gouvernants, les lettrés, prennent conscience des enjeux géostratégiques qui se jouent au-delà des frères de Matsumae. Et ce qui est intéressant, c'est que si on compare justement ce que disent les rapports des missions d'exploration européens sur cette région, c'est que le territoire Aïnou n'est pas vraiment sous la souveraineté effective d'une quelconque puissance, que c'est une sorte de no man's land où vivent des populations autochtones qui ont l'air plutôt amicales, qui ne les ont pas accueillies de manière conflictuelle, et que ça vaudrait peut-être le coup de passer par les Aïnou, soit pour commercer avec le Japon, soit pour s'implanter dans la région. Et c'est à ce moment-là, donc sans connaître la teneur de ces rapports, que les Japonais aussi, et quand je dis les Japonais, là encore toujours les gouvernants et les lettrés, se rendent compte qu'il est important de savoir ce qui se passe au-delà de leurs frontières septentrionales.
Et donc, à partir de là, nous avons l'envoi par le shogunat, notamment de... Alors, tu me diras comment tu préfères les nommer, mais on va dire d'explorateurs. et un début aussi de cartographie de la région. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus?
Alors, tout à fait, il y a deux missions qui sont un peu plus connues et une qui est un peu moins connue. Donc, j'ai commencé peut-être par les plus connues. Donc, il y a celle d'Ino Tadataka et de Mamiya Linzo, qui sont pas du tout le même type de mission, mais qui ont pour point commun de s'être intéressés donc au nord du Japon. Donc, Ino Tadataka était un brasseur de saké qui, au moment où il prend sa retraite, décide de se consacrer aux mathématiques et à l'astronomie. Il va pour ça prendre des cours auprès de Takahashi Kageyasu, qui est l'une des grandes sommités de l'époque, qui travaille au bureau astronomique du shogunat. Ils sont passionnés, comme en Europe à la même époque d'ailleurs, par la mesure d'un degré de méridien terrestre. Et pour cela, il faut effectuer des mesures et des triangulations précises. Et pour obtenir un degré de précision plus important, il faut préférablement le faire sur des grandes distances, sur de longues distances. Et Ino va se dire que ce serait une bonne idée en fait de partir de Hokkaido, qui est une terre qui a la réputation d'être vaste. Je dis la réputation parce que il n'y a encore eu de véritable entreprise japonaise à cette époque-là de cartographier l'île. Donc ça, c'est à la toute fin du 18e siècle. Ino Tadataka va se servir de cette menace russe comme argument pour négocier auprès du shogunat l'autorisation d'aller au-delà de la frontière domaniale, ce qui est interdit à l'époque, hein, rappelons-le, et sur ses propres deniers de cartographier Hokkaido. Donc finalement, il fournit une carte au shogunat quelques années plus tard qui va beaucoup plaire et il va être ensuite lancé pour cartographier tout le Japon. Et donc, les petits écoliers japonais apprennent qu'entre 1800 et 1816, Ino Tadataka parcourt le Japon en marchant et produit la carte la plus précise du Japon qui ait jamais vu le jour à cette époque. Et elle est si précise d'ailleurs qu'il semblerait qu'elle ait été utilisée, ça t'intéresserait du coup, par l'armée japonaise jusque l'ère Meiji. J'ai retrouvé des exemplaires de cartes qui ont été digitalisées où on retrouve des tampons de l'armée de terre japonaise. Donc ça, c'est pour Ino Tadataka.
Ce serait pas étonnant, sachant qu'au début de l'ère Meiji, un des travaux dans lesquels se lance l'armée, c'est notamment la cartographie du Japon et l'uniformisation des différentes cartes et des différents modèles. Et donc tu parlais aussi donc de Mamiya Linzo, mais avant de passer à lui, je me demandais juste est-ce que Ino Tadataka intègre les vis-à-vis internationaux de Hokkaido, ou c'est simplement, enfin simplement, c'est déjà beaucoup à l'époque, hein, une carte de l'île.
Alors en fait, il fabrique ses cartes à l'aide de la triangulation, donc de plus petites cartes. En fait, c'est une grande carte qui a été formée à l'aide de plus petites cartes. Alors, c'est pas très clair quand je le dis comme ça. Il faudrait aller voir des images sur
C'est comme si on prenait toutes les cartes Michelin et qu'on les mettait côte à côte pour faire une carte de France.
Exactement, c'est beaucoup plus clair quand tu le dis comme ça. Donc, finalement, il s'est vraiment focalisé sur Hokkaido, donc sur ce qu'il a pu mesurer lui-même. Ce qu'il a parcouru comme chemin et ce qu'il a pu mesurer. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas, si je me rappelle bien, semble pas qu'il y ait même le vis-à-vis de Kunashi Shigotan et les rochers à Habomai, non, il me semble pas. Hein. Je pense que c'est vraiment uniquement le Japon. Mais c'était déjà assez sensible comme information pour qu'il ait des problèmes, enfin que les Takahashi aient des problèmes parce que l'une de ces cartes, il en a fait de plusieurs formats, hein, parce que la plus grande, c'est un terrain de basket. Hein. L'un des petits formats de cette carte, alors je ne sais plus si c'est un original ou une carte recopiée, a été retrouvé dans les bagages de Von Siebold alors qu'il quittait le Japon, et donc il a été interdit de séjour, et Takahashi pas Kageyasu, son fils, je me rappelle jamais comment il s'appelle, a fini en sous les verrous pour avoir laissé s'échapper des informations sensibles.
Et donc tu nous parlais, passons à ce Mamiya Linzo. Pourquoi, qu'a-t-il fait? Qu'est-ce qui le rend intéressant?
Alors lui aussi, sa mission est très connue. C'est un personnage tout aussi charismatique qu'Ino Tadataka. Alors lui, il a été envoyé par le shogunat au-delà des frontières japonaises pour en fait faire du renseignement, pour une mission de renseignement. Il s'est rendu, lui, à Sakhaline. Il a observé et noté les relations qu'avaient les Aïnous avec les autres populations autochtones et les relations que ces populations autochtones avaient avec les Chinois, essentiellement commerciales. Il semblerait qu'il soit allé jusqu'au comptoir de Deren en Chine et qu'il se soit rendu compte à cette occasion que l'île de Sakhaline était bien une île et pas une péninsule, donc qui est une énigme qui avait taraudé les Japonais, mais pas que, les Européens également, hein, et dont la Pérouse. Et d'ailleurs, ce détroit de Tartarie, comme on l'appelle chez nous, est appelé le détroit de Mamiya au Japon. Donc c'est vrai que, comment dire, il a un petit peu une réputation, une aura d'espion, si on veut, surtout à une époque où on ne pouvait pas vraiment quitter le Japon, qui fait que ça, c'est un personnage éminemment charismatique de cette époque et de l'exploration septentrionale. Mais moi, l'expédition qui m'intéresse le plus finalement, c'est l'une de celles qui a précédé donc ces deux missions très différentes. C'est celle de 1785. Une expédition shogunale qui est mandatée suite à la découverte, la prise de conscience de la présence russe. Et finalement, c'est elle qui révèle au shogunat l'ampleur de ce qu'il ignore finalement et de ce qui se passe au-delà des frontières du domanial. J'aime à imaginer la tête qu'ont dû faire les responsables gouvernementaux qu'on lu ce rapport. Il est question donc des implantations russes, des contacts entre les Aïnous et des Russes. Il y est question de marchands japonais qui auraient récupéré des produits russes, décrits comme des produits de contrebande, parce que c'est complètement interdit. Et surtout, il y est question de l'incapacité complète du domaine de Matsumae de surveiller ce qui se passe au nord. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte que le shogunat se rend compte que Matsumae laisse complètement faire, que ce sont les marchands qui sont les autorités effectives de facto au-delà de la frontière, et surtout qu'il a caché au shogunat une présence russe dont il est conscient depuis quelques décennies déjà, ou dont il se doute du moins depuis quelques décennies déjà.
Donc, sur des modalités qui sont différentes, hein, on retrouve un petit peu ces problèmes de relations, notamment avec Tsushima. Donc, c'est d'autres échanges, hein, c'est plutôt avec la Corée, avec la Chine, mais à quel point les communications entre le shogunat et les fiefs qui sont censés s'occuper de la frontière en fait et des échanges oublient certaines choses quand ils envoient leurs rapports ou quand ils présentent même leurs relations avec l'étranger.
Ah, tout à fait, tout à fait. Et c'est là que je trouve que cette mission est très intéressante parce que elle révèle des découvertes à différentes échelles. Et finalement, mais ceux qui étonnent presque peut-être moins les autorités shogunales, c'est les Aïnous dans toute cette affaire. Ils sont peut-être presque plus étonnés par ce qui se passe chez les Russes, voire dans le domaine de Matsumae et chez les marchands, que ce qui se passe finalement avec les Aïnous. Donc l'altérité n'est pas forcément là où on l'attendrait. Et finalement, l'un des membres de cette mission, qui est Mogami Tokunai, qui est un personnage connu aussi de tous ceux qui s'intéressent à cette région et à cette époque, va nous laisser des écrits très intéressants sur les mœurs des Aïnous, sur les coutumes, qui va chercher à décrire sans jugement. Et dans l'un de ses textes, il va proposer des réflexions sur finalement la proximité des Japonais et des Aïnous par rapport au fait que les Japonais et les Aïnous d'un côté et les Russes de l'autre sont vraiment des personnes différentes, des gens différents qui ont des coutumes différentes. Alors le terme qu'il emploie, c'est shurui. Il dit que les Ainu et les Japonais sont du même shurui et que les Russes sont une autre shurui. Donc shurui, c'est le type, c'est presque l'espèce si on regarde dans un dictionnaire. Mais là, j'ai presque envie de. Est-ce qu'on pourrait pas employer le mot race, quoi? Parce que il va vraiment mettre les Ainu et les Japonais d'une part et les Russes de l'autre. En tout cas, c'est étonnant parce qu'on se rend compte qu'à la fin du XVIIIe siècle, chez certains lettrés, chez certains intellectuels et peut-être aussi chez certains membres du gouvernement, c'est plus les Ainu qui représentent l'altérité redoutable régionale du coin, c'est plutôt les Russes. Des Russes avec qui soit il faut commercer, soit avec qui il faut se montrer très ferme, ça les avis diffèrent. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Ainu sont beaucoup plus perçus comme des alliés dans les rapports que les Japonais vont avoir aux Russes que comme des ennemis finalement. Et c'est tout ça qui va mener à le shogunat, le dernier soulèvement armé des Ainu en 1789. C'est tout ça qui va mener à la décision shogunale de prendre le contrôle direct de toute cette zone qui était donc sous contrôle domanial avant, en 1799. Et c'est là où mes recherches doctorales, en tout cas, se sont arrêtées. C'est vraiment cette prise de conscience que les enjeux économiques, géostratégiques, militaires aussi, sont trop importants dans cette région pour que la surveillance et le contrôle du territoire Ainu ne soient pas gérés par le shogunat.
Donc ça va se manifester comment? Par l'installation d'un bugbyo ou quelque chose comme ça?
Oui, tout à fait. Oui. On va avoir l'installation d'une sorte de bureau administratif. C'est bugbyo d'ailleurs le terme qui est employé. Alors la prise de contrôle va se faire en plusieurs temps. D'abord, on va avoir la façade orientale de ce territoire, donc l'est de Hokkaido et les Kuriles méridionales. Et puis finalement, ça va être étendu à l'ensemble de Hokkaido. Là, c'est encore d'autres histoires que je pourrais vous raconter. Il y a des ambassades russes qui ont lieu dans le même temps. Un ambassadeur en particulier qui va être éconduit par le Japon va ordonner à ses lieutenants de mettre à feu et à sang certains comptoirs japonais du sud de Sakhaline, des Kuriles et de Hokkaido. En 1807-1808, ça va motiver l'envoi de troupes sur place. Et là, c'est presque une autre histoire qui commence, en fait. Et c'est une que je suis en train d'essayer d'étudier pour peut-être écrire maintenant, à la suite de ce que j'ai fait en thèse il y a maintenant longtemps. C'est d'étudier cette nouvelle domination, ces nouvelles modalités de domination dans un contexte qui a quand même un petit peu évolué au début du 19e siècle.
Non, c'est vraiment très, très intéressant. Hein. Tu montres bien comment à la fois il y a énormément de relations internationales qui coexistent, hein, que ce soit Hokkaido, les populations autochtones de Hokkaido, donc les Ainu notamment, qui communiquent avec leurs voisins, que ce soit le Japon ou les Russes, les Japonais qui communiquent avec les Ainu et qui communiquent par ces biais-là avec les Russes ou plus directement, ainsi de suite. Donc c'est vraiment un espace qui est extrêmement vivant, alors, je ne sais pas si globalisé presque, on pourrait dire.
Mais, alors en fait, c'est un peu ma conclusion aussi, presque. En fait, quand j'ai terminé ma thèse, j'avais l'impression qu'il y avait plein de pistes qui avaient été ouvertes. Et qui restait à explorer. Et c'est d'ailleurs, ça fait partie de celle que je suis en train d'explorer maintenant, qui est en fait tous ces rapports européens, français et anglais qui m'auraient éloigné du Japon pendant mon travail doctoral et sur lequel je peux me pencher maintenant, qui parlent de cette région et des possibilités, du potentiel de cette région pour la France, pour la Grande-Bretagne, voire pour certains autres pays. Et c'est vraiment ça qui est intéressant et qui me pousse à, Alors, je sais que c'est peut-être un peu tendance et ça fait peut-être un peu tête de gondole à la FNAC, mais qui me pousse à penser à une histoire mondiale de cette région, à une histoire mondiale des territoires Aïnou. Parce que autant les rapports régionaux m'étaient apparus relativement rapidement, autant l'importance véritable de cette région aux yeux de pays beaucoup plus lointains, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert et que et j'aimerais essayer de montrer à quel point cette région est importante, pas juste pour les Aïnous, pas juste pour les Japonais, pas juste pour les Russes, mais peut-être pour d'autres au début du 19e siècle.
Ouais, non, je pense que c'est un travail qui est important et nécessaire, notamment quand il fait usage bien des sources autochtones, parce qu'un des problèmes qu'on retrouve assez souvent, c'est que bah, voilà, la vision européano-centrée de ces régions-là, qu'on va utiliser plutôt les archives européennes pour essayer de comprendre ce qui s'y passait, sans forcément regarder du côté des archives, par exemple, japonaises, ou même de ce qu'on peut trouver sur ce qu'ont laissé les Aïnous. Et, bah, j'en profite pour te poser la question, hein. Quels sont les documents sur lesquels tu t'es appuyé pendant ton travail de thèse, et peut-être les documents que tu souhaites utiliser. Enfin, je ne veux pas que tu nous donnes tes secrets de fabrication, mais voilà, si tu peux nous en dire un petit peu plus.
Non, c'est vrai que moi, j'ai fait le voyage inverse, c'est-à-dire j'arrive aux sources européennes après avoir travaillé sur les sources plus locales. Alors, les Aïnous n'avaient pas de système d'écriture à cette époque-là, donc c'est assez, c'est un travail un petit peu, comment dire, de précision, de haute précision, pour essayer d'aller tirer la substantifique moelle des écrits qui nous restent, donc qui sont essentiellement des traductions ou des écrits en japonais. Alors, en ce qui concerne l'histoire Aïnou de manière un petit peu générale, les sources principales qui existent sont les yukars, donc les récits, les chants, les poèmes épiques Aïnou, qui évoquent donc les relations conflictuelles des différents groupes Aïnou entre eux. Certains évoquent même les conflits qui auraient mené à l'installation de certains groupes Aïnou sur Sakhaline, donc comme j'en parlais tout à l'heure. Et surtout, il y a un grand nombre de yukars qui parlent de la relation, des relations commerciales avec les Japonais. Alors, il y a des yukars qui présentent les Japonais comme étant cruels, peu fiables, etc. Il y a des yukars, au contraire, où les Japonais sont présentés comme étant extrêmement amicaux, extrêmement bienveillants. Il y a même un yukar qui est chanté du point de vue d'un Japonais. Il y est question de mariage entre Aïnou et Japonais. Donc, on peut tirer parfois pas des conclusions, mais des idées, des réflexions, des pistes de l'analyse de ces yukars, qui parlent aussi parfois de famine et de conséquences néfastes des rapports nippo-aïnou. Mais il existe d'autres sources, surtout donc pour cette fin de XVIIIe siècle et ce début de XIXe siècle. Alors, le domaine de Matsumae avait interdit aux Aïnou d'apprendre la langue japonaise pour maintenir des relations de dissimulation entre les deux populations. Mais certains grands chefs Aïnou connaissaient le japonais parce que en leur qualité d'intermédiaires commerciaux, il était bien sûr très important pour eux de maîtriser la langue, quitte à faire semblant de ne pas du tout la parler quand il fallait. Et ces grands chefs ont été interviewés dans le cadre de certaines des missions d'exploration. Et suite à l'intervention shogunale après le conflit de 1789, donc il nous reste des retranscriptions d'entretiens entre des agents shogunaux et des chefs Aïnou, donc qui ont eu lieu en japonais, donc la preuve que certains chefs Aïnou donc maîtrisaient le japonais, et où les chefs Aïnou, j'ai envie de dire, se lâchent, entre guillemets, c'est-à-dire que ils parlent aux agents shogunaux de tout ce que le fief a fait comme erreur, ou tous les moments où le fief n'est pas intervenu dans les relations conflictuelles des Aïnou avec les marchands sur place ou avec les interprètes des maisons marchandes. Et donc les Aïnou se montrent extrêmement critiques, pas forcément du shogunat, mais surtout du fief, du domaine de Matsumae et de certains marchands et certains interprètes. Et ça, c'est des sources extrêmement précieuses qu'il faut bien sûr évidemment aussi analyser avec des pincettes, mais ça nous permet d'essayer d'avoir un point de vue aussi aïnou que possible en l'absence de sources écrites directement par eux.
Oui, comme souvent, les sources, qu'elles soient directement écrites par les acteurs ou non, sont à prendre avec des pincettes, c'est un peu la règle de base. Moi, j'ai juste une, peut-être, alors ça nous éloigne peut-être un tout petit peu, mais la situation des Aïnous dans la période, on va dire, contemporaine, donc d'après-guerre au Japon et même avant, est, pour ainsi dire, problématique. Elle est l'objet de nombreux débats et des questions de reconnaissance. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la manière dont s'est construite cette, on va dire, cette altérité Ainu par rapport, enfin, pour les Japonais?
Alors, il y a eu un changement de paradigme assez radical entre donc cette époque d'Edo que j'ai étudiée et puis le 19e siècle et encore après à l'ère Meiji. Donc, on est passé d'une dissimulation volontaire, donc le fait que les Ainu n'avaient pas le droit d'apprendre le japonais, ne pouvaient pas pratiquer les coutumes japonaises, à donc suite à la prise de contrôle direct du shogunat. Un rapport des rapports beaucoup plus équilibrés avec les Ainu qui du coup pouvaient apprendre le japonais. Il y a même eu certains lieux où il y avait des agents mandatés pour leur enseigner la langue japonaise. Et puis finalement cette prise de pouvoir shogunale a pris fin en 1821 pour reprendre en 1854. Suite aux événements de 1853. Donc, il y a eu une sorte de mouvement de va-et-vient avant l'ère Meiji sur la manière dont on pouvait intégrer ou non les Ainu dans les populations japonaises qui vivaient dans le nord et qui étaient de plus en plus implantées. À l'ère Meiji, on change complètement de paradigme. L'une des premières décisions qui est prise, c'est l'annexion de Hokkaido, qui devient donc officiellement Hokkaido. Et assez rapidement, les Ainu sont intégrés dans les gens du commun, avant d'être désignés en 1878 comme étant des anciens indigènes. Donc, ils ont une sorte de statut intermédiaire, parce qu'ils sont à la fois japonais. Il y a d'ailleurs des Ainu qui prennent part à la guerre russo-japonaise, tout en étant des anciens indigènes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans d'autres situations coloniales, hein, le fait d'être à la fois pas vraiment quelque chose et plus vraiment quelque chose non plus.
Est-ce que au moment de l'instauration de la constitution japonaise, donc en 1890, est-ce que ils obtiennent le droit de vote? Enfin, évidemment, c'est un droit de vote. Les plus riches, on va dire, est-ce qu'ils obtiennent le droit de vote ou est-ce que leur statut le leur interdit?
Ma connaissance, non. Alors, je ne suis pas une spécialiste en termes juridiques, mais il me semble que non, parce qu'en plus, la loi de 1899, qui est la loi de protection des anciens indigènes de Hokkaido, les met encore une fois clairement à part. Ils ont des droits de propriété qui ne sont pas les mêmes que ceux des colons japonais à Hokkaido. Ils ont des écoles spécifiques. Donc, mon intuition, j'aurais tendance à dire non, là, pour le coup,
Parce
je ne
que
sais pas.
c'est intéressant. Enfin, je sais que c'est pas nécessairement la période sur laquelle tu as travaillé, mais j'imagine qu'il serait intéressant de tirer des corrélations avec le traitement de la population coréenne, par exemple, qui
Non.
à un moment il était question de les faire citoyens, puis après non, et ainsi de suite. Donc à quel point, et puis même dans d'autres contextes coloniaux, hein, la France avec ses anciennes colonies en Afrique du Nord, la manière dont étaient traités les habitants du point de vue de la citoyenneté est évidemment extrêmement problématique et j'ai l'impression qu'on le retrouve un petit peu ici aussi.
Ce que je sais, ça, ce qui est certain, c'est que quand en vertu du traité 1875 d'échange entre Sakhaline et les Kouriles, les Aïnous qui vivaient dans les Kouriles ont pour beaucoup été déplacés à Hokkaido. Et quand finalement le Japon, suite à la guerre russo-japonaise, a récupéré la souveraineté sur Sakhaline, les Ainu de Sakhaline étaient clairement traités différemment des Ainu de Hokkaido. Donc même au sein d'une population qui aurait pu, je dis bien qui aurait pu être considérée comme ethniquement homogène, il y a eu des traitements très très différents. Je pense que c'est Arnaud Nanta qui serait le spécialiste de ces questions. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que autant que faire se peut, il y a eu une volonté là pour le coup qui était beaucoup plus proche d'une volonté d'assimilation que de la dissimilation qui avait eu lieu ou ces mouvements de va-et-vient au cours du 19e siècle, avant finalement dans les années 30 et à la fin des années 30 que cette spécificité Ainu disparaissent en fait dans les textes, dans les esprits. Les écoles spéciales pour anciens indigènes ont été abolies en 1937. Dans les décennies qui ont précédé, il y avait un discours de plus en plus prégnant sur la disparition des Ainu, population en voie de disparition, que ce soit par intégration ou du fait de l'alcool, du fait du métissage, etc. Donc finalement, c'est le discours qui visait à dire qu'il n'y avait plus de Ainu, effectivement, avait déjà commencé à se répandre avant la Seconde Guerre mondiale et c'était encore plus le cas après la Seconde Guerre mondiale. Et ce, d'autant plus que la déclaration du Caire ou d'autres traités qui stipulaient que le Japon devait rendre tous les territoires qu'il avait colonisés par force ou par cupidité auraient pu inclure Hokkaido. Donc c'était encore plus sensible comme sujet peut-être à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc là, pour le coup, c'est vrai que c'était.
J'imagine qu'avec les Russes présents aux portes de Hokkaido, certains, notamment les Américains, n'auraient sans doute pas souhaité voir cette île laissée comme ça à la dérive, pour ainsi dire.
Oui, peut-être que ça arrangeait tout le monde finalement de ne pas parler des Ainu à ce moment-là, en effet.
Après, c'est un autre problème, mais le procès de Tokyo pose énormément de problèmes du point de vue même du jugement de l'impérialisme et de la colonisation, en fait. C'est pour ça que c'est sans doute un procès qui n'a pas atteint tous ses objectifs.
Donc finalement, c'est relativement récemment, entre plein de guillemets, hein, parce que j'ai parlé de l'antiquité japonaise, donc là c'est sûr que c'est plus récent ce que j'évoque, mais c'est les mouvements de mobilisation et de revendication de la reconnaissance donc de l'existence de la minorité autochtone Ainu, qui s'est soldée par enfin la reconnaissance officielle en 2019. Après la prise de décision de la reconnaissance officielle en 2008, et ça a pris un petit peu de temps pour être digéré, mais là est acté en tout cas.
J'ai peut-être une dernière question sur les Aïnous que je me posais. C'était dans quelle mesure, alors là on voit une construction hein, de notre connaissance de l'identité Aïnou par le biais d'acteurs qui ne sont pas nécessairement des Aïnous. Est-ce que ces tendances, alors je sais que c'est là encore pas ta spécialité, mais est-ce que c'est une tendance qui a tendance à, enfin, une tendance qui a tendance. Est-ce qu'il y a peut-être un inversement de cela et qu'il y a de plus en plus d'acteurs Ainu qui participent à la manière dont est construite notre connaissance de cette identité-là?
Alors, en effet, je ne suis pas une spécialiste des Ainu à l'époque contemporaine, mais il y a vraiment, moi, une personnalité, une figure qui me vient à. Figure, c'est peut-être un anglicisme d'ailleurs. En tout cas, une personnalité qui me vient à l'esprit quand tu poses cette question, c'est celle de Kayano Shigeru, qui est né en 1926, qui nous a quittés en 2006, et qui est quelqu'un qui avait été élevé par sa grand-mère, qui lui avait toujours parlé Ainu. Donc c'est quelqu'un qui avait véritablement, à une époque où c'était pas forcément le cas, baigné dans la culture Ainu et dans la langue Ainu, qui a eu des péripéties dans sa jeunesse, mais qui est revenu finalement à cet intérêt pour la culture Ainu et qui a voulu présenter la vision Ainu de l'histoire Ainu. Ce qui n'avait pas forcément été fait jusqu'à ce moment-là, qui a rédigé des livres, qui a écrit des histoires, qui a participé à la. Quand je dis écrit des histoires, c'est-à-dire plutôt compilé des yukars, des histoires pour enfants, qui a mené un grand travail de traduction de certaines sources, qui a monté des associations ou qui a participé de manière indirecte ou directe à promouvoir et à diffuser, à transmettre la langue Aïnou. Et je pense que c'est vraiment quelqu'un qui a fait beaucoup. Et je dis pas que c'est le seul ou qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas participé à tous ces efforts, mais il a vraiment, je pense, su être assez fédérateur. Et ce, d'autant plus qu'il s'est retrouvé presque un petit peu par hasard en politique. Et s'est même retrouvé en tant que représentant à la Diète, où il a fait d'ailleurs l'un de ses discours, il a donné l'un de ses discours en langue Aïnou, qui était pour lui une langue du Japon. Donc c'est quelqu'un qui était médiatisé, qui était une personnalité d'ailleurs tout à fait médiatique, et qui a vraiment, je vais dire quelque chose d'un peu nul, fait sortir les Aïnous du bois, entre guillemets, qui a permis une réappropriation discursive de l'histoire Aïnou. Et je pense que c'est une initiative qui a été qui est de plus en plus suivie, et que c'est, je sais pas si c'est ça que tu avais en tête pour l'inversion, raconter sa propre histoire, mais c'est vraiment lui, je pense, qui a permis de lancer un peu ce mouvement.
Oui, c'était plus ou moins ma question. Eh bien, Noémie, je pense que nous en avons déjà beaucoup dit, même si ce n'est jamais assez. Je pense qu'on comprend bien l'importance actuelle de repenser toutes ces thématiques, la place de Hokkaido dans cet environnement international, la place du Japon vis-à-vis de Hokkaido et ainsi que voilà de la Russie et de la Chine. L'importance de tous ces acteurs, peut-être aussi, qu'on avait tendance à oublier, à passer sous silence, ceux qui ont fabriqué les cartes, à quel point ils ont changé la perception que les Japonais et autres pouvaient avoir du monde dans lequel ils vivaient. Mais aussi, je pense, la place des Aïnous au milieu de tout ça, et à quel point, en fait, ils n'étaient pas juste qu'une population subjugués par une autre puissance qui leur était proche, mais qui étaient vraiment des acteurs importants dans ce milieu-là. Et donc, je te remercie vraiment pour nous avoir présenté tes travaux.
Merci à toi.
Et puis, eh bien, je souhaite évidemment à nos auditeurs d'avoir eu plaisir à nous écouter et eh bien d'écouter également les prochains épisodes d'À l'écoute des Japons. Voilà, encore merci beaucoup et
merci Grégoire.
De bonnes fêtes.
Toi aussi.